Cette émission a été rendue possible par le CNC et par la Commission nationale du débat public.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public, très heureux de vous accueillir chers amis dans la deuxième partie de cette émission. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter en podcast et à nous regarder sur YouTube. Et bonjour aussi au chat, vous êtes avec nous le chat sur le plateau comme d'habitude. C'est un peu l'émission de Noël ce soir, c'est la dernière émission avant la pause, la trêve estivale. Non, pas estivale, c'est l'autre justement.
Hivernale.
Trêve hivernale, on va faire une pause d'un mois, pendant lequel il n'y aura pas Backseat. Ce soir, c'est la dernière du coup avant ce mois de pause pour ce repos bien mérité pour toutes les équipes. Pensez à vous abonner si vous regardez cette vidéo sur YouTube. 50% des gens qui regardent l'émission sur YouTube ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est dommage parce que être abonné, ça vous permet d'être notifié des nouvelles vidéos qui arrivent les unes après les autres. Donc profitez-en. Chers amis, je suis sur ce plateau très très bien entouré. J'ai le plaisir d'être avec Latifa. Salut Latifa.
Salut Jean.
Latifa, tu es la directrice exécutive du mouvement.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu vas bien ?
Ouais, je vais bien. Ce soir, je suis en week-end, donc si on pouvait terminer rapidement.
D'accord, carrément.
Je suis pour la semaine de 4 jours.
Eh ben écoute.
Ah, je suis avec toi.
Ouais, j'avoue, ça ferait plaisir. Mais après, t'es en vacances ?
Non,
t'es pas en vacances direct. Ok, d'accord. On est aussi avec Usul. Salut Usul.
Bonsoir.
Tu vas bien ?
Oh, la méga patate.
Ouais. Chroniqueur sur Backseat, on te retrouve pas mal aussi sur Blast avec Rhinocéros et depuis la semaine dernière, ta nouvelle émission qui s'appelle La France a peur.
Oui, pour l'instant c'est une mensuelle, on essaye. Blast essaie de lancer sa chaîne YouTube et
Twitch,
bien sûr.
Pas grave.
Twitch vos trucs de jeunes là, moi je m'y retrouve plus. Donc on a fait une première, voilà, c'est une émission de 2 heures de plateau. On revient sur certains contenus de Blast et puis après on a un invité en deuxième partie. Donc là on a fait une première, c'est très bien passé avec Johan Chapoutot. Le replay est disponible sur la chaîne Twitch de Blast.
Johan Chapoutot, c'est un historien spécialisé de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, même précisément
oui.
Du nazisme.
Et oui.
Excellente historien et donc c'est chouette, non mais bravo pour cette nouvelle émission, bravo à toi et à Blast.
Merci. C'est vrai que c'est moi, j'ai pas l'habitude de, c'est moi qui anime, c'est moi qui lance des jingles qui se lancent pas.
tu ressens cette solitude infinie.
C'est ça, mais c'est très sympa à faire, hein. C'est très marrant, je comprends que tu te plaises ici.
Ouais, je
dans cet
plais.
Exercice.
En tout cas, ça me fait super plaisir de vous avoir sur le plateau avec moi. On est aussi avec Sacha. Salut Sacha.
Salut Jean.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, Sacha, tu es journaliste sport à France Télé. Est-ce que tout roule pour toi ?
Oui. Moi aussi, je suis en week-end ce soir.
Bientôt
donc,
les vacances.
Pareil que Latifa, si à 22h, on peut avoir tout bouclé, c'est cool. Non, je rigole. Ouais, week-end ce soir, mais pas les vacances encore.
D'accord, ok.
Voilà.
Okay. Les amis, j'ai des cadeaux pour vous, les cartes Backseat, les cartes du club Backseat. Ça fait partie des contreparties lorsque vous faites partie du club Backseat sur KissKissBankBank, donc vous soutenez l'émission, vous recevez par la poste une carte Backseat et donc je vous remets vos cartes.
Énorme.
Chaque chroniqueur en a un. On a une, pardon.
Elles sont numérotées,
Numérotées, absolument. Moi, j'ai la numéro 1. Et pour vous, chers amis, chez vous, sachez que nous sommes en train de vous les envoyer. On a fait tout l'atelier de mise en pli. Donc on s'est fait chier il y a quelques jours à faire un nombre incalculable parce que moi je dois signer les courriers parce que vous recevez la carte avec un courrier.
Jules, t'es numéro combien ?
300 021. Tu veux mon code aussi ? Ouais, on peut rien faire avec cette carte. Hein.
Alors, cette carte vous donne accès au public une fois par semaine sur les places réservées, mais il faut vous inscrire avant quand même. Et cette carte pourra vous donner accès à des événements qu'on organisera avec des partenaires. C'est aussi ça le but.
Ah oui, c'est mes moments préférés. Ceux
qui s'organisent, que ce soit la Bellevilloire ou nos événements spéciaux à nous, si on organise des événements spéciaux, le fait de posséder une carte vous permettra d'y entrer.
Et bravo pour le travail de Marmotte sur la mise en pli.
Et du coup, ouais, on a fait de la mise en pli, j'ai signé de ma main 700 ou 800 courriers.
C'est pas un truc de cheveux, la mise en pli ?
De quoi ?
C'est pas un truc de cheveux, la mise en pli ?
De cheveux ?
Non, la mise en pli.
Pas que, oui, oui.
Faire une mise en pli.
Oui.
Alors, je sais pas ce que ça veut dire.
Dans les années 80, mais oui.
Ah oui, d'accord.
Tu sais, les bigoudis, tout ça.
C'est ça, quoi ?
Voilà. Non, je savais pas que ça se disait pour le courrier, quoi. Voilà.
Ça désigne quoi ?
Peut-être c'est mise sous pli ?
Mise sous pli.
Mise sous pli, c'est pour le courrier. Et mise en pli, c'est la.
Voilà. Je me disais bien.
Enfin, la coiffure, plutôt.
Il y avait une erreur.
Non, mais bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué.
Ouais, faut
mise souplie. Donc on s'est fait chier à faire de la mise souplie, donc ça y est, c'est dans les enveloppes. Vous allez recevoir vos cartes, elles vont arriver chez vous. Elles vont arriver chez vous. Qu'est-ce que je voulais dire ? Eh ben, j'en profite du coup pour vous rappeler de soutenir cette émission. L'émission Backseat est réalisée grâce à vos dons. Ça permet de financer, donc de payer le salaire des personnes qui réalisent cette émission. Rendez-vous sur KissKissBankBank. Vous avez le lien dans la description de la vidéo YouTube, du podcast, et dans le chat, vous avez le lien également. Vous aussi, faites un don mensuel pour soutenir Backseat. C'est grâce à vous et à nos partenaires qu'on réussit à faire cette émission.
Ma petite anecdote un peu marrante, parce que moi, je suis comme vous, non, je suis claqué. Je me suis levé à 6h30 pour prendre mon train ce matin parce que j'animais un stream pour la CGT ce midi à 11h. Et j'arrive, je suis creux, je me suis levé à 6h30, il m'a fait comme des milliers de travailleurs. Je fais OK, ça rigole pas à la CGT, on peut pas se plaindre qu'on s'est levé tôt. Et donc voilà, un peu claqué comme tout le monde, mais j'ai pas le droit de me plaindre. Voilà.
Il était moustachu ou pas ?
Non, non, mais enfin quand même, il était sincère, je crois.
Ouais, je pense, ouais.
Bon, les amis, ça vous dit ce qu'on parle de politique ? Allez, absolument. C'est parti pour l'actualité de la semaine.
Bon, alors, premier
sujet, on est tous claqués, mais de toute façon, on va parler d'un sujet qui va nous passionner, c'est le gouvernement.
Allez.
On adore. Mmh. Non, le premier sujet, c'est qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde, lundi, journée difficile pour le gouvernement, et particulièrement pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Une motion de rejet a été adoptée sur la loi immigration, 270 voix contre 265, c'est passé ric-rac, mais c'est passé. Une motion de rejet préalable a donc dégagé le texte de loi immigration. Alors ça, s'il y a bien un truc auquel je m'y attendais pas. C'était bien qu'une motion de rejet soit adoptée, on a finalement,
ouais,
mais personne s'y attendait, absolument personne s'y attendait, même pas les opposants. Je vous rappelle, pour essayer de faire les choses simples, que quand un texte arrive en discussion à l'Assemblée nationale, il commence par être travaillé en commission, la commission commence à adopter des amendements, commence à modifier le texte et tout. Mais la commission, ce n'est qu'un groupe de travail avant le vrai grand galop d'essai, le vrai grand moment important qui va être la séance publique. En séance publique, où là, il y aura à nouveau le travail d'amendement qui va pouvoir être fait par les députés, le vote, le débat, on modifie le texte, on le vote, on avance, etc. Au moment où le texte sort de commission et arrive en séance publique, on commence par ce qu'on appelle la discussion générale. Et dans la discussion générale, il y a la possibilité de déposer ce qu'on appelle des motions de rejet. Motion de rejet, c'est tout simple. C'est un texte tout simple d'une ligne qui dit « le texte est rejeté ».
Mais il est motivé quand même, il faut le motiver.
Oui, il faut le motiver.
Mais en l'occurrence, c'était motivé.
La raison pour laquelle y a toujours une motion de rejet qui est déposée par les opposants au gouvernement, c'est normal parce que ça donne l'opportunité aux oppositions de prendre la parole une première fois sur le texte, sur l'ensemble du texte, avant d'entrer dans le détail, pour dire globalement à quel point on n'est pas d'accord avec le texte. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le texte votent la motion de rejet, ceux qui sont d'accord avec le texte ne votent rien. Et donc, normalement, classiquement, ça peut se passer normalement, la motion de rejet est rejetée. Les motions de rejet sont tout le temps rejetées parce qu'il n'y a jamais assez de voix pour les adopter. Sauf lundi. Lundi, il s'est trouvé qu'une motion de rejet, si je ne dis pas de conneries, c'est la motion de rejet des écolos.
Ouais.
Absolument.
C'est celle des écolos.
Elle a été votée par un panel de gens très différents pour des raisons très différentes. On a un peu la gauche qui trouvait que le texte était trop à droite et la droite qui trouvait que le texte était trop à gauche.
Oh, c'est pas ça.
Ah, c'est exactement ce qu'a dit Ciotti.
Ah,
c'est
ouais
exactement ce qu'a dit Ciotti. Il a dit
ce texte,
nous ne voterons jamais ce texte. Il a été trop modifié par la jambe gauche de la Macronie qui a le pouvoir sur le gouvernement.
Oh.
Ah oui, complètement.
Genre Sacha Houlier, il a une influence sur Darmanin.
Sacha Houlier, lui, il faut qu'il cite ses sources aussi parce que ça m'intéresserait de savoir comment il a appris ça, lui.
Donc c'est exactement ce qui s'est passé,
d'accord.
C'est que la motion de censure, la motion de rejet des écologistes a été votée par toute la gauche NUPES, mais aussi par les Républicains, mais aussi par le Rassemblement National. Et quand on additionne toutes les voix, ça fait une majorité, 270 voix, et voilà que le gouvernement se retrouve...
Gros gens comme devant.
Dans la panade.
Dans la merde, mais oui, dans la merde, parce que plus de textes. Donc, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, prend sa bagnole, se rend à l'Élysée pour présenter sa démission au président de la République.
Ce cirque.
C'est
quel
normal.
Moment de grâce à suivre en direct à la télé.
Ah ouais, j'ai pas vu le direct. Mais c'est normal de remettre sa démission au président de la République lorsque l'on est désavoué par le Parlement. On vient de perdre un vote extrêmement important à l'Assemblée nationale. On est désavoué, on va voir le président de la République à qui on remet sa démission.
Et pas le Premier ministre.
Tout à fait logiquement. Non, parce que c'est le président de la République qui est le Premier ministre. Et logiquement, le président de la République a refusé cette demande de démission. Il a conservé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il l'a, renforcé dans ses, dans ses attributions. Et le gouvernement se retrouve dans la merde avec un texte qui a été rejeté une première fois à l'Assemblée nationale. Donc très, en, très, très affaibli en réalité le gouvernement, non ?
Si, si, ah bah oui, complètement.
Jules.
Bah, c'était le but du Rassemblement National. C'est surtout eux qui ont tergiversé aussi toute l'après-midi.
Jusqu'à la dernière minute, oui.
Voilà, en se demandant, parce qu'en effet, il faut préciser, la motion à la base a été rédigée par les écolos. Il y avait même écrit dedans que le texte était trop bourrin, trop d'atteinte aux droits des étrangers.
En fait, il y avait deux textes, en fait, à la
base. Une différence fondamentale entre les écolos, entre la gauche et l'extrême droite au Parlement, c'est qu'au Parlement, l'extrême droite n'a aucun problème à voter des textes de gauche, alors que la gauche rechigne toujours à voter des textes racistes, par exemple.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est la gauche qui propose le texte. L'extrême droite qui s'y rallie, et on dit à la gauche, vous votez avec l'extrême droite. Jamais on dit à l'extrême droite, vous avez voté avec la gauche, c'est honteux, vous avez voté avec les cutéreux, les étudiants, les chevelus, les communistes. Non, c'est encore la faute à la gauche, quoi. C'est extraordinaire.
Ouais, et pire que ça, même, il a été reproché notamment à la gauche ou à certains de voter tout le temps les lois, enfin les projets du gouvernement, etc. Alors que c'est l'extrême droite qui vote le plus pour le parti, enfin pour les projets du gouvernement, plus de 50%. Il y a même eu presque ce switch à un moment donné de dire non, nous on vote que de l'extrême droite, de dire nous on vote tout le temps contre. Alors que non, l'extrême droite vote en majorité, en tout cas beaucoup plus que la NUPES pour les projets de loi du gouvernement.
Et c'est incompréhensible, il y a eu des invectives très très violentes, en mode, vous êtes vraiment, vous votez avec l'extrême droite, vous, la gauche, machin, et c'est vraiment parti jusqu'à ce que Cyril Châtelain des écolos s'est fait accuser de, on lui a dit, alors je sais pas lequel...
Ah oui, vous serez tondu à la libération.
Vous serez tondu à la libération.
C'est Cazenave, non ?
Cazenave. Jean-René Cazenave, c'est ça ? Je ne sais plus. Jean-Pierre Cazenave.
Jean-René Cazenave.
Jean-René. Ça c'est un prénom, Jean-René, apparemment.
C'est le sien, en tout
cas. Ça colle avec la phrase qu'il a dit, en tout cas.
Ouais, vous serez tondu à la libération. Donc, voilà. Alors, c'est eux qui, factuellement, proposent des textes qui sont votés par l'extrême droite, dont le refus de la hausse du SMIC, etc. Ça vote avec l'extrême droite tranquille. Mais là, il y a une motion de rejet. En fait, on a senti une surprise de leur part. Ça, c'est sûr, de la part de la majorité relative, donc de la minorité gouvernementale. Et on a senti
des oppositions
une frustration. Vraiment, il y a eu un truc de « on est surpris, on est vénère ». Et là, les coups sont partis sur la gauche, pas sur l'extrême droite. Je ne comprends pas. Je feins de ne pas comprendre, peut-être.
Sacha, à moyen terme, est-ce que la gauche a de quoi se réjouir du vote de cette motion ?
Alors pour moi non, vraiment c'est pour ça que dans un premier temps on voit les premières réactions et on se dit à cette motion de rejet, on se dit c'est cool, il y a un peu un regain de démocratie enfin au sein de cette assemblée alors que ça gouvernait à coup de 49-3 depuis quand même plus d'un an. Et puis quand on prend un peu de recul, on se dit mais maintenant qu'il y a une CMP, une commission mixte paritaire, le texte n'en ressortira que plus dur a priori. Et c'est d'ailleurs ce que Sacha Ollier a admis lui-même ce matin sur France Inter, si je dis pas de bêtises. Le texte n'en ressortira que plus dur parce qu'il est évident que le gouvernement ne va pas choisir la ligne un peu plus à gauche de ce texte. Et ils vont peut-être même se rapprocher de la ligne du Sénat, avec notamment la suppression de l'AME, tout ça. Donc non, je vois pas la gauche être gagnante là-dessus, et surtout la gauche s'est réjouie de cette motion de rejet, mais elle a pas été très proactive non plus à faire des propositions sur le thème, quoi. Donc
Mais après le gouvernement peut tout à fait dire ça ne passe pas, rejet du texte, on le
c'est
met de côté.
C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit, si ça passe pas en CMP, abandon du texte.
C'est-à-dire si le texte revient plus dur, que ce soit à cause de la CMP ou ça aurait pu être aussi un autre cheminement où il serait revenu aussi plus dur, c'est le gouvernement qui le décide ça.
Ah, oui.
C'est pas la gauche, la gauche elle a voté.
Non mais la gauche elle fait pas grand-chose. Pour préciser, effectivement le texte maintenant va passer en commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. La commission mixte paritaire est à majorité à droite. Le gouvernement va avoir intérêt pour ne pas avoir à nouveau un camouflet comme ils viennent d'avoir, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ne peuvent pas se permettre de l'avoir une deuxième fois en deuxième lecture. Ils vont modifier le texte en le rapprochant du texte sorti du Sénat, c'est-à-dire en le droitisant. Le texte va ressortir de la CMP droitisé. Il faudra que cette droitisation soit suffisante pour que les députés LR ne vote pas la motion de rejet en deuxième lecture.
Et alors, même en le droitisant, je pense que ça ne va pas être si simple que ça de faire voter les députés LR, parce que le Figaro a sorti ce soir que les trois chefs, donc Marleix, Retailleau et Ciotti, des Républicains, ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron, alors qu'ils ont rencontré Elisabeth Borne ce matin, si je ne dis pas de bêtises, en lui disant il n'y a qu'une seule solution pour l'immigration, c'est une réforme constitutionnelle. Et nous n'accepterons que la réforme constitutionnelle sur l'immigration.
Sur l'immigration, le référendum.
Ils veulent le référendum.
Oh là là.
Ah, il lâche pas cette histoire.
Il lâche pas du tout cette histoire.
Ah là, non.
Donc, en fait, on n'est même pas sûr que la commission mixte paritaire va bien se passer. Et qui va lâcher quoi à quel moment?
Ah, je savais pas qu'ils étaient.
Donc, en fait, ils se rangent à la stratégie du RN qui est on veut vous pousser à la dissolution. C'est la stratégie du RN. Le RN vote.
Oui. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit.
Le RN est
persuadé. Quand on a reçu Olivier Marleix sur ce plateau. Je n'ai pas senti un Olivier Marleix qui cherchait à jouer à la dissolution.
Non, je ne crois pas.
Je n'ai pas l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais je n'ai pas l'impression que les Républicains cherchent à aller en direction d'une dissolution. L'extrême droite, c'est sûr, ça, le Rassemblement National, il votera toujours toutes les motions possibles, même les plus à gauche. Il les votera tant que ça peut aller dans le sens d'une dissolution. Lui,
c'est eux qui bordélisent.
Ouais.
En tout cas, ils ont une stratégie parlementaire qui décoiffe, ça c'est sûr. Latifa, est-ce qu'il ne manque pas un grand mouvement populaire pour le mouvement, justement. Non, mais est-ce qu'il manque pas un grand mouvement populaire pour appeler au retrait du texte?
Mais oui, c'est ça. Moi, je trouve que dans la stratégie de la NUPES, c'est ça que j'ai pas compris. C'est que ce soir-là, tout le monde disait victoire, victoire. Donc, on a épargné deux semaines de discours xénophobes, etc. Soit, mais comment. Enfin, Bardella et le RN étaient beaucoup plus audibles sur ces histoires de dissolution. Et d'ailleurs, on a parlé de ça tout de suite. Mais pas, en fait, normalement, dès le lendemain, la question qui aurait dû s'imposer dans le champ politique, c'est retrait du texte, point. Et en fait, tout ne doit tendre qu'à cela, parce que, on en pense qu'on en veut, les députés qui ont rejeté, qui ont voté cette motion, représentent en fait la France beaucoup plus que le gouvernement, de manière globale. Enfin, ça, c'est factuel, c'est des gens qui ont voté. Mais qu'il n'y ait pas eu, dès le lendemain, en fait, cette mobilisation plus globale, peut-être difficile à faire, mais en tout cas, c'est le retrait. Là, il peut pas. De mettre la pression pour dire c'est le retrait. Et puis, c'est tout en termes de stratégie politique. C'est là où j'ai été un peu, en tant que spectatrice, un peu. Où ça m'a interpellée, interrogée. Mais en même temps, je sais que c'est parce que finalement, avant ce projet de loi, où il y a des mesures complètement abjectes, j'ai pas senti non plus avant ça beaucoup de mobilisation. Il y a eu un ou deux meetings de la gauche, je crois, autour de ce projet de loi pour le rejeter. Pas senti une mobilisation citoyenne énorme. J'ai pas senti une couverture médiatique qui montrait à quel point ça pouvait être dangereux pour les étrangers, les immigrés de manière générale et les incohérences même en fait de la droite au contexte économique, etc. Donc c'est un tout, mais c'est vrai que j'étais un peu, le vote de cette motion de rejet, ça peut pas être la fin du combat, en fait, ça devait être que le début pour la gauche.
Après, je pense que s'il n'y a pas eu d'appel à retirer le texte en tout et basta cosy, c'est aussi que LR et RN ont un intérêt à ce qu'il y ait une loi immigration et une énième loi immigration. Eux sont pour avoir une loi immigration. Donc je pense que la gauche veut, enfin la NUPES, pardon, veut complètement retirer le texte, mais ça pèse pas assez par rapport à, en termes de poids électoral et tout ça, ça pèse pas assez pour le gouvernement, à mon avis, face à LR et au RN qui, eux, poussent depuis des mois sur cette loi immigration. Ça fait un an qu'on nous parle d'une loi immigration. Je pense que le gouvernement a fait son choix dans le poids des uns et des autres.
Ce serait une humiliation de s'arrêter là pour eux. Ils en ont fait une affaire personnelle. Darmanin en a fait une affaire personnelle.
J'allais te demander, pour toi, oui, Darmanin, il joue très très gros. On parlait de Darmanin, éventuel successeur d'Emmanuel Macron en 2027. Est-ce que là, il vient de cramer définitivement toute fin de carrière? Honnêtement, je ne pense pas. Très simple, c'est que les Français s'en branlent complètement de ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
Ouais, pour lui, c'était son moment, quoi. Il a vu comme son moment de briller, d'être dans les médias, de faire ses petites tournées, de voir, on l'a voté, on verrait contre tout, etc. Et oui, c'est surtout ça, en fait. Je pense que lui, là, c'est vrai que ça fait un peu pétard mouillé pour lui, quoi.
Et il faut vous rendre compte de l'énergie qu'il avait déployée. Il y a beaucoup d'articles qui en rendent compte. Il avait appelé des députés, un par un, LR, pour dire « vote le texte et t'auras une gendarmerie dans ta circo », etc. Non, déjà, on peut interroger déjà la pratique. On peut interroger déjà ce truc de « vote mon texte et je mets une gendarmerie dans ta circo parce que je suis ministre de l'Intérieur ».
C'est vrai que dans Baron Noir, c'est une pratique ultra courante.
Quand bien même, on peut quand même interroger, même si ça a toujours...
C'est une manière de gouverner. Hein. C'est comme ça qu'ont été votés les plus grands textes.
Et les meilleurs, mais bon, là, on n'est pas sûr.
C'est le film Lincoln, notamment, qui raconte ça sur l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et qui montre comment c'était dégueulasse, les négociations.
Et donc voilà, peu importe. Et on sait à quel point Darmanin peut être insistant par SMS aujourd'hui. Or, c'est
22 heures.
C'est ce dont les articles qui en parlent rendent compte aussi, quoi. C'est-à-dire, il appelait tout le monde, il insistait, etc. C'est ce que disent les députés aujourd'hui. C'est un foirage alors qu'il avait mis énormément d'énergie. Et je pense que c'était un peu ça le jeu de LR. ça a été de dire on va pas se laisser faire par Darmanin qui a envoyé des signaux contradictoires, à la fois je fais de la séduction, à la fois voilà. Mais bon, revenons, en effet, Latifa, t'as raison. Est-ce que la gauche peut miser sur une mobilisation populaire? C'est pas dit. Beaucoup d'énergies militantes sont prises dans autre chose. Il y a les problèmes de salaire, d'inflation, de machin. Même les manifs palestines qui mobilisent aussi de l'énergie militante et tout. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu un grand mouvement populaire contre cette loi immigration.
Et puis par ailleurs, pour une autre raison, c'est quand on avait regardé ensemble sur ce plateau, rappelez-vous, les sondages et les enquêtes d'opinion sur la question migratoire. L'enquête qui avait été faite par Libé, je me souviens, montrait une ambivalence. C'est-à-dire qu'une partie des Français sont d'accord pour un durcissement des règles en matière d'immigration, tout en reconnaissant dans la même enquête qu'ils sont en manque de connaissances et de compréhension du phénomène déjà, de son ampleur, de la réalité des conditions des personnes sans papiers dans ce pays. Mais c'est vrai qu'on peut chacun se faire son examen de conscience. Est-ce que vous connaissez, vous, les règles pour avoir des papiers? Combien de temps? C'est quoi les délais? C'est quoi les conditions?
Sachant qu'elles sont considérablement durcies, alors que il y avait quand même une demande, y compris des milieux patronaux, ne voilons pas la face, de rendons ça aussi plus simple, parce que nous, c'est quand même une main d'œuvre dont on peut pas se passer. Or, les conditions ont été durcies, les délais ont été rallongés. Enfin, on a quand même, l'idée, c'était de compliquer l'accès, qui est déjà compliqué. Hein. C'est déjà des démarches, des préfectures, des heures d'attente, y compris dans la rue. Hein, parce que ce parcours, faut aussi rappeler ce qu'il est. C'est-à-dire, il est aussi le parcours pour l'accès au papier, pour l'accès même à un truc temporaire. Hein. Il est humiliant, il est dur. Ouais. Il est déjà très pénible et la France n'est pas si attractive que ça. Quand on regarde les faits, quand on regarde les chiffres, on se dit on n'est clairement pas le paradis des travailleurs immigrés qui voudraient venir.
Non, en plus, c'est déjà énormément compliqué. Oui. On a plein d'exemples, notamment préfecture de l'Essonne, parce qu'il y a des gens qui se mobilisent sur des délais. Parfois, il y a des gens qui ont leurs papiers, mais qui veulent juste ramener leur famille, leur femme, leur fille,
leur groupement
et
familial.
Qui attendent un an, deux ans, trois ans. En fait, les procédures de regroupement familial, il y a très peu d'agents. Et dans des préfectures, effectivement, on peut attendre parfois un an, deux ans avant juste de se retrouver avec sa famille, et je dis sa famille proche, c'est-à-dire sa femme ou son époux et ses enfants. Et alors même qu'on travaille en France et qu'on remplit exactement toutes les conditions pour le faire. Donc oui, c'est des choses dont les gens ne sont pas forcément conscients, mais il suffit de faire un peu tour des préfectures tôt le matin.
Et là, je vois des gens dans le chat qui disaient, en vrai, si, on est un paradis pour les immigrés, et pourtant, plein d'immigrés viennent. Mais regardez les chiffres, en fait. Regardez le nombre de gens qu'on accueille.
Il n'y en a pas tant que ça.
On est le pays de l'OCDE.
On
n'est
pas attractif.
On n'est pas attractif.
Même les Ukrainiens, ils ont fait, ouais, la France, bof.
C'est vrai. Alors qu'on a mis le paquet pour accueillir les Ukrainiens.
Non, on n'a pas mis le paquet d'ailleurs. On n'a pas mis dans le paquet que ça. On a mis plus que pour les autres, ça c'est sûr.
Oui, voilà, c'est ça. Par rapport au reste.
Mais par rapport à nos voisins, on n'a pas mis le paquet.
Ah non, par rapport à nos voisins, non.
Donc non, on est voilà. Le message en tout cas, il est passé.
Visiblement. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble. Alors ça, je vais avoir besoin de votre aide, les amis, parce que j'y comprends rien. Aurore Berger et la parentalité.
Ah.
Aurore Berger, c'est la ministre des
solidarités et de la famille,
qui organisait lundi le premier jour d'une commission scientifique sur la parentalité.
Oui.
Ça avait été annoncé fin octobre dernier.
Oui.
Des mesures qui font suite aux émeutes de juin dernier, les révoltes après la mort de Naël. Rappelez-vous. Les petits chenapans dans la rue, oui, mais les parents, qu'est-ce qu'ils font? Il faudrait s'occuper des parents. Donc, on va mettre en place une commission parentalité. Et c'est ça dont on est en train de parler, puisqu'elle a commencé à se réunir. Et ça n'a pas manqué. Dès le premier jour, il y a eu trois démissions.
Bam.
Agnès Martial du CNRS, Claude Martin, sociologue spécialiste de la parentalité, et Irène Thierry, sociologue de la famille, ont démissionné donc de cette commission parentalité en expliquant, je cite, regretter que les travaux ne soient placés sous l'égide que des méthodes répressives. Fin de citation.
Exactement. Et surtout, ils n'étaient pas au courant que c'était aussi placé dans l'axe des violences qui avaient eu lieu en juin dernier. Donc, c'est lunaire. On leur demande de travailler sur du temps long sur un truc. Et en fait, on se rend compte que ça va être une réponse politique très courte,
un
problème qui a eu lieu il y a des mois. Enfin,
oui.
Usul, c'est quoi cette histoire de commission? C'est quoi son rôle?
C'est du conseil scientifique, c'est-à-dire, on va essayer de produire des propositions, puis après, le gouvernement fait ce qu'il en veut, on est comme d'habitude. Mmh. Mais on leur a dit, venez, il y a de nouvelles formes de parentalité, qu'est-ce qu'on fait? La garde alternée, de je sais pas quoi, il faut repenser, peut-être, la parentalité. Bon, eux, il y a des sociologues, il y a des chercheurs, ils disent, pourquoi pas, peut-être. Et puis là, bam, interview d'Aurore Berger dans la Tribune du Dimanche. Oui. Et là, ils apprennent que, en fait, c'est parce que, à la suite des émeutes, à la suite de la mort de Naël, toute la charge de la responsabilité de ces garnements, parce qu'ils étaient, Éric Dupond-Moretti l'a dit, il a été surpris qu'ils étaient si jeunes, ces jeunes-là, ils sont jeunes, ces jeunes. Donc, c'est de la faute des parents, les parents les tiennent pas. Donc, et c'est pour ça qu'ils apprennent ça dans le journal, ils apprennent que Aurore Berger dit déjà, elle a déjà prévu qu'il y aura peut-être des travaux d'intérêt généraux pour les parents défaillants, et que tout ça, c'est pour réapprendre l'autorité un peu dans les familles. Et eux, ils sont sociologues, ils pensaient venir travailler sérieusement, et ils apprennent ça dans la Tribune du Dimanche. Donc, il y a eu 3 démissions, ils ont motivé leur truc, et ça se profile assez mal pour la suite, parce que bon, voilà, faire une commission et dire fournissez-nous des propositions, mais en fait nous on en a déjà, ça va être tapé sur les parents, voilà, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de ce nouveau. Parce qu'encore une fois, c'est un machin. Macron et son équipe créent un machin. Et là, même le machin, c'est un pétard mouillé dès le début. Parce qu'en fait, il a déjà une idée en tête.
Bah, c'est ça.
Ouais, d'insister que sur l'aspect répressif. Mmh. Avec notamment, enfin, le truc le plus dingue, c'est mettre en place des amendes, je crois, pour les parents dont les enfants mineurs ont commis des dégradations. Alors même que l'on sait que, par exemple, ça concerne des familles monoparentales, que les familles monoparentales, c'est une question qui est genrée.
Plus de 60% apparemment pour les événements de juin.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a la question dans les quartiers populaires, cette question de la famille monoparentale. Les familles monoparentales, c'est plus de 80% de femmes et 40% d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc là, on est en train de mettre une amende en plus, sur des gens qui sont déjà en fait dans la précarité, qui ont déjà du mal à payer par exemple la cantine de leurs enfants, qui doivent et travailler des fois des horaires pénible très tôt le matin, très tard le soir, et s'occuper aussi de leur enfant. Et donc c'est une question centrale en fait, sociétale, qui doit tous nous concerner. Sur il y a un collectif des mères isolées notamment qui s'est constitué, qui fait un projet de loi pour demander au même moment un statut spécifique pour les mères isolées, pour leur ouvrir droit à un certain nombre de droits à plein d'égards. Et en fait, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Enfin, ces femmes se mobilisent depuis je ne sais pas combien de temps sur ces questions-là, et la réponse, enfin, du gouvernement ou les décisions du gouvernement, c'est avoir ce volet uniquement répressif là-dessus, et ça participe de toujours la même dynamique, c'est dont on a l'impression en fait de frapper sur les plus pauvres et les plus faibles, en pensant vraiment que, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des parents qui se réjouissent de se dire mon gamin de 13 ans, 14 ans, 15 ans se retrouve dans des émeutes. Enfin, voilà, les parents, ils ont aussi un sentiment
parce que j'ai la flemme.
Ouais, ils ont un sentiment de honte.
L'autorité parentale, ça m'emmerde.
Ouais, et en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ces parents-là. Et ça, on ne discute pas de la question centrale, en fait, de ces familles monoparentales, de la question d'élever un enfant. On dit que ça demande un village pour élever un enfant. Et là, on refuse, en fait, tout ce débat qui est une transformation de notre société, qui mérite des mesures importantes, mais on préfère évacuer le sujet en... bah, je sais pas, c'est encore une fois flatter l'extrême droite ou flatter la droite sur
c'est la question-là. C'est la métaphysique libérale de parce que c'était ça le problème qu'ils avaient eu, c'est-à-dire que quand il y a les magasins un peu pillés, les écoles brûlées ou je sais pas quoi, ils se disent c'est de la faute de l'individu parce que c'est des libéraux, donc il faut punir les individus. Puis là ils se disent ah merde, l'individu c'est un enfant en fait, il a 16 ans, on est dans la merde,
on va punir les parents.
Punir les parents parce que c'est le libre arbitre, il faut responsabiliser les gens, c'est-à-dire qu'en fait le collectif, y compris l'État, et peut-être qu'on parlera un petit peu plus tard aussi du département pour l'aide sociale à l'enfance et des trucs comme ça, n'a aucune responsabilité. La seule responsabilité, ça doit être ses parents qui doivent être surresponsabilisés, donc punis, parce qu'on ne... Voilà, la carotte et le bâton, c'est fini. Il n'y a que le bâton pour les pauvres maintenant. Et,
Sacha, est-ce que ça en dit pas long sur l'incapacité du gouvernement à gouverner, justement,
avec des commissions,
avec des gens, bah ouais.
Juste avec des gens normaux.
Organiser des discussions, quoi.
Disons que on va pas cracher dans la soupe. C'est positif quand le gouvernement s'entoure de membres de la société civile, comme des sociologues, des démographes, etc., etc., parce que c'est des gens qui sont proches du terrain et qui travaillent sur les dossiers depuis des années. Après, c'est ce qu'on se rend compte là, le temps politique et le temps sociologique, entre guillemets, sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que Aurore Berger, on lui demande de taper vite et fort pour des raisons qui, à mon avis, sont électorales. Alors que les scientifiques demandent au moins, en plus on les a convoqués à la dernière minute, enfin, depuis le début cette histoire est lunaire. Et alors, autre anecdote sur le traitement des commissions par ce gouvernement, en 2019 ou 2020, le gouvernement demande à un neuropsychiatre qui s'appelle Boris Cyrulnik de pondre un dossier sur les 1000 premiers jours de l'enfance. Je sais pas si vous vous en souvenez, il y avait eu toute une campagne de pub aussi à la télé et tout, enfin... Voilà. Boris, l'ami Boris pond ce rapport de manière tout à fait bénévole, et on apprend en même temps que le gouvernement a fait appel à un cabinet de conseil pour travailler sur le même dossier, payé 425 000 euros à peu près.
Alors qu'il fallait les donner à Boris.
Et en plus, le Sénat s'est rendu compte que ce qui avait été rendu par le cabinet de conseil était juste nul à chier, en fait.
Étonnant,
contrairement au dossier d'un neuropsychiatre, voilà. Donc, que le gouvernement utilise les acteurs de la société civile, je pense que c'est nécessaire et il faut le faire. Mais le fait est que ce gouvernement ne sait pas le faire pour l'instant. Donc, enfin, ne sait toujours pas le faire, plutôt, après 7 ans de mandature. Donc,
puis voilà, étude d'impact aussi, peut-être, ça pourrait être intéressant avant avant des mesures comme ce dont on parlait, c'est-à-dire de punir les parents, de mettre des amendes, de faire des travaux d'intérêt général pour des parents défaillants. Ils sont défaillants. Et toi, tu leur mets encore plus la tête sous l'eau. Ça va être quoi les conséquences de ça, y compris pour les enfants? Bon, voilà, c'est encore une fois, c'est aberrant.
Autre sujet, Latifa, tu as rencontré Emmanuel Macron la semaine dernière.
Cette
information est vraie.
Information
ça faisait suite à une tribune dont tu étais co-signataire dans Le Monde, une tribune qui portait sur la mémoire des quartiers populaires. Et Macron a dit banco pour la création d'un groupement d'intérêt scientifique sur le sujet. De quoi ça s'agit? Explique-nous.
Oui, ça s'inscrivait donc dans le cadre, au mois de décembre 2023. En décembre 83, il y a eu la marche pour l'égalité contre le racisme qui a été menée par des militants, notamment de Lyon, dans un contexte de crimes racistes en France, etc. Donc ils ont marché de Marseille à Paris pour dénoncer les crimes racistes. Ils ont terminé 100 000 à Paris début décembre 83. Donc c'était cette tribune...
La marche des beurs, comment on
voilà, c'est ça. L'autre nom...
Pour l'égalité et contre le racisme.
Ouais. Et en fait, elle a... à l'occasion de cette 40e anniversaire, il y a une historienne, Naïma Yahi, et un militant associatif, Salah Mokrane, qui ont fait cette tribune pour demander voilà, la tenue d'État généraux sur la mémoire politique culturelle des quartiers populaires, un groupement d'intérêt scientifique, pour qu'on puisse inscrire la mémoire des quartiers populaires de manière claire dans l'histoire du pays. Et notamment l'histoire de cette marche qui a été aussi un hold-up politique, il faut le dire, de la part de la gauche, où en fait Mitterrand a bien joué. Aucun des militants à l'époque de cette marche qui est à l'origine de cette marche, y compris les jeunes de quartier populaire ou le père Christian Delorme, Toumi Djaïdja, bref, les différentes personnes n'ont eu de responsabilité politique après ça, etc. C'est-à-dire qu'ils ont représenté une avancée et en même temps pour le pouvoir en place une crainte qui a décidé de pousser, de donner beaucoup d'argent à une association qui s'appelle SOS Racisme, notamment Harlem Désir et Julien Drey, créer la conséquence principale de ça, ça a été la création des SOS Racisme et la carte de séjour de 10 ans. Mais bref, en tout cas, dans le cadre des commémorations de là-dessus, j'ai voulu signer cette tribune. Après ça, effectivement, j'ai eu un mail dans ma boîte du président de la présidence de la République pour m'inviter à participer à un échange. Et je pensais qu'on serait plusieurs. J'avoue, je sais pas d'où ça sortait, mais je suis arrivée, j'ai vu le plan table, j'ai dit « Ah !»
Vous étiez combien ?
On était, nous militants, on était 7. Et eux, ils étaient 5-6.
Ah bah d'accord. Oh, c'est vraiment une discussion, quoi.
Ouais, un petit café. Un petit café.
Alors,
Et il y avait donc des marcheurs de l'époque. Et puis, avec d'autres personnes, moi, je représentais plus les héritiers de ces combats-là liés au quartier populaire et à l'immigration. Et voilà. Après, le président a écouté tout le monde discuter. Ça a duré une petite heure. Et il a ouvert, voilà, comme il dit, un chantier présidentiel. Il y a eu un papier là-dessus cette semaine dans Libé sur la mémoire des quartiers populaires, à quel point c'était important pour les habitants de quartiers populaires ou ici de l'immigration de voir comment ils peuvent s'inscrire dans une histoire plus grande qui est l'histoire de la France, en fait, tout simplement. Ça, c'était important, mais on a conscience aussi que la question mémorielle est la plus simple à aborder, parce qu'il veut faire la même chose que pour l'Algérie. Mais la question mémorielle pour la quartier populaire est aussi simple à aborder si elle ne s'accompagne pas de mesures politiques plutôt claires et importantes pour les habitants des quartiers populaires. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les travailleurs immigrés, etc. Donc, c'est quelque chose pour lequel je milite. Et si ce projet se concrétise, c'est très bien. Mais en plus, voilà, personne n'était dupe sur le fait que.
L'idée, c'est quoi? C'est de changer, mettre des noms de rues, mettre des. C'est ça un mémoriel, non?
Ouais, c'est. Enfin, de créer un groupement scientifique, du coup, de voir comment ça peut être bon.
Mais les propositions simple, finales.
Intégré dans des manuels d'éducation, de l'éducation nationale, tu vois, genre sur les vagues d'immigration des années 60, les ouvriers issus de l'immigration, de montrer que c'est pas un désert politique, les quartiers populaires, que déjà les travailleurs immigrés se mobilisent à l'époque.
Mais normalement, c'est pas au gouvernement de dire ce qu'il y a dans les manuels scolaires.
Mais il y a tout ce qui est, on va dire, comment dire. Pas au roman national, mais comment on fait pour que cette réalité-là
le récit.
Existe en fait. Comment on fait pour que ce récit...
Mais,
pour
mais
ce
d'ailleurs, ce c'était, déjà le, c'était déjà le cas du travail de Benjamin Stora qui avait fait...
voilà, piloté tout un travail
sur la mémoire de la colonisation en l'occurrence.
Oui, oui, le président a fait directement ce parallèle lors de l'entrevue en disant, voilà, on l'a fait sur l'Algérie, donc on peut le faire là-dessus. Voilà, après, comme c'était dit dans l'article de Libé, personne ne... croit plus au Père Noël parmi les personnes qui étaient présentes. Mmh. Il y a d'ailleurs des militants de la marche qui ont refusé d'aller à cette rencontre. Ce que aussi on peut totalement comprendre. Après, c'est toujours des positions différentes quand on est militant. Est-ce qu'on va rencontrer le pouvoir, entre guillemets, quand il nous invite, ou est-ce qu'on décide de continuer à, enfin, de le boycotter complètement?
Et du coup, t'as pas peur d'une récupération politique? Tu penses que le travail qui va être fait va être intéressant?
On verra, en fait. C'est peut-être, ouais, affaire à suivre. On verra comment ça se passe par la suite.
D'ailleurs, c'est quoi le calendrier? T'as des infos?
Eh ben, apparemment, rendez-vous en janvier.
Okay.
Pour en tout cas, Naïma, qui est l'historienne qui gère cela, et voilà. Mais oui, ça reste à voir. Je vous redirai si je revois Macron.
Bah ouais, tu nous racontes. Hein. À chaque fois que tu vois Macron, parle-nous. Nous, on veut savoir. Hein.
Mais voilà, en tout cas.
Toi, Usul, tu penses que c'est une volonté de maîtriser le récit
Ah oui. Non, ça sert à rien de très étonnant qu'il y ait une volonté justement de maîtriser le récit. Après, voilà, comme tu disais. Le plan Borloo pour les banlieues, il a été foutu à la poubelle directement. C'est-à-dire que là, encore une fois, on avait demandé une expertise. Le plan Borloo, il arrive, il est épais comme ça. Et puis Macron, pout, ça dégage en fait. C'est-à-dire, oui, s'il n'y a pas de plan derrière et qu'on fait juste de la mémoire, bon, c'est intéressant de voir comment on l'intègre. D'accord, ok. Mais on peut aussi regarder les erreurs qui ont été faites à l'époque et voir qu'en fait, on est en train de continuer la même chose. Et même, j'ai même envie de dire que c'est pire que ça. C'est-à-dire que la mémoire des quartiers populaires, elle est aussi contenue dans un tissu associatif. Elle est aussi contenu dans une mémoire militante, etc., qui a été saccagée aussi. Le tissu associatif en banlieue a été saccagé. Est-ce qu'on laisse des assos? Est-ce qu'on laisse des commerces? Est-ce qu'on laisse de machin? Bon, comment sont gérés aujourd'hui ces quartiers populaires-là? Et est-ce qu'on laisse des choses y vivre? Là, on rejoint aussi la commission, le truc sur l'autorité parentale. L'autorité, qu'est-ce que tu fais de tes gamins quand dans le quartier, il n'y a plus de club de sport, il n'y a plus de terrain de foot, il n'y a plus de cours de théâtre, de radio libre, de trucs qui pouvaient y avoir à l'époque, et tout ça, ça a été saccagé.
De juste maison des jeunes, en fait, de maison de quartier où tu peux aller pour faire juste tes devoirs, et cette dimension aussi éducation populaire, qui existait beaucoup dans les quartiers, enfin, il y a tout. Tout un environnement qui a disparu, en fait.
Et les acteurs de cette époque disent souvent qu'ils ont du mal à raconter ça aux jeunes, tellement les quartiers aussi se sont transformés et sont devenus plus durs, plus secs aussi, au niveau de cette richesse qui était peut-être là avant, mais qui a eu une effervescence à un moment, mais qui n'est plus là. Et donc du coup, oui, on peut faire de la mémoire des vieux trucs, mais ceux qui transmettent le mieux cette mémoire et qui la font vivre, c'est encore les acteurs, c'est encore les gens qui sont là-bas, quoi. Mmh. Et ceux-là, on les a pas laissés faire, en fait. Voilà.
Alors, on va continuer, on voudrait parler un petit peu de climat, on va parler de la COP, mais on va surtout parler du climat dans les médias, avec une invitée de la semaine. Chers amis, je vous demande d'accueillir sur ce plateau la cofondatrice du collectif Quota Climat, Eva Morel. Bonsoir Eva, merci d'être avec nous.
Merci de l'invitation.
Bienvenue sur le plateau de Backseat. On voulait discuter avec toi parce que vous portez, vous, Quota Climat, vous portez une initiative en ce moment dont on va parler en lien avec le climat et les médias. Raconte-nous d'abord, c'est quoi, déjà, t'es qui toi? C'est quoi Quota Climat?
C'est sec.
c'est un peu raide, excuse-moi.
Bel accueil.
c'est la fatigue, excuse-moi.
Qui je suis? Donc, je m'appelle Eva, j'ai cofondé la saison Quota Climat en effet il y a un an et demi. Et c'est ma titre professionnel. Je travaille à l'Assemblée nationale pour une députée. Et c'est important de dire que Quota Climat, c'est un collectif. Donc, il n'y a pas que moi dans l'association. Okay. On est une dizaine. Voilà.
Et c'est un collectif qui fait quoi, alors? C'est du plaidoyer?
Alors, ce qu'on fait chez Quota Climat, c'est qu'on travaille sur le rôle des médias dans la transition. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une très faible proportion des contenus qui parlaient d'écologie dans les médias. Et c'était particulièrement problématique en période électorale, puisqu'on n'était pas du tout informé sur les programmes des candidats sur le sujet. Et donc, ça avait une incidence directe sur la manière dont les propositions étaient formulées. Et donc, derrière, de la manière dont les entreprises parlaient de ce sujet et les citoyens étaient informés.
D'accord.
Et donc nous, on a décidé d'agir sur ce sujet. Donc on a proposé au départ l'instauration d'un quota volontaire de 20% d'informations environnementales dédiées dans les médias. Ça a eu un bel engouement en fait, il y a eu pas mal de commentateurs politiques, Jean-Marc Jancovici, Valérie Masson-Delmotte, qui ont signé la tribune et qui se sont dit « Ah, c'est intéressant, c'est vrai que peut-être l'approche quota, qui est en fait historiquement le quota, c'est une mesure qui permet de redresser dans l'urgence une carence quantitative. Donc comme par exemple dans les comités exécutifs, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de femmes, bah, on peut mettre des quotas
de femmes. Voilà. » Et ça marche en fait.
On a décidé de faire la même chose dans les médias, en tout cas de proposer ça. Et depuis, on a plusieurs actions qui permettent d'avancer sur le sujet. Et on a l'impression que depuis un an et demi, on parle de plus en plus en fait, du rôle des médias dans la transition. Donc c'est assez positif.
Est-ce que vous avez des données ? Est-ce que vous avez des datas sur la quantité de fois que le climat est abordé dans les médias ?
En fait, c'est le point de départ de l'association, c'est de se dire on en parle à hauteur environ de 1 à 2% d'espace médiatique des sujets d'écologie. Donc à la fois dans la presse, mais aussi dans l'audiovisuel. 1 à 2%, c'est à mettre en perspective. Par exemple, la crise du Covid, ça avait occupé jusqu'à 75% de l'espace médiatique pendant la crise sanitaire au pic de la crise. Donc en fait, un sujet qui fait l'actualité, ça sature l'espace médiatique. La Coupe du Monde de Qatar, par exemple, avait occupé plus de 20% de l'espace médiatique. En comparaison, l'écologie, c'est 1 à 2%. Donc nous, ça nous semble problématique. Et au-delà de ce quota quantitatif, c'est important de dire qu'il n'y a pas que le problème de la quantité. Nous, on travaille de plus en plus à développer de la donnée quali sur la manière dont ces sujets sont abordés, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore trop de climato-scepticisme, trop de confusion entre faits et opinions, trop de désinformation sur les enjeux écologiques. Et au-delà de ça, par exemple, la manière dont on dépeint les militants, les personnes qui travaillent, les défenseurs de l'environnement, c'est trop souvent connoté au champ lexical de la violence. C'est trop souvent des connotations en fait péjoratives dans la manière dont c'est mis en récit. Il y a un exemple très frappant récemment, il y a eu un reportage sur France Télévisions qui était filmé d'une manière qui était assez aberrante, qui mettait en scène les militants écolos comme des fous dangereux qui allaient en prison, qui étaient extrêmement radicaux. Alors c'est pas du tout de dire qu'il n'y en a pas, mais ça ne représente pas du tout de manière exhaustive le spectre des personnes-là. Et en fait, je pense pour le grand public, ça antagonise vraiment vis-à-vis de ces modes d'action. Et nous, ça nous semble important de faire évoluer la manière dont on en parle globalement. Et peut-être dernier point, la manière surtout dont on parle des solutions. Parce que, en fait, trop souvent, quand on parle des enjeux écologiques dans les médias, on a tendance à parler des vagues de chaleur, des incendies, des canicules, des inondations, mais pas du tout de, déjà, pourquoi est-ce que tout ça se passe. Donc, faire le lien avec les causes, des émissions de gaz à effet de serre, etc. Et surtout, ce qu'on pourrait faire pour y remédier. Et c'est pourtant la chose la plus essentielle à transmettre dans l'espace médiatique.
Et du coup, une de vos stratégies, c'est d'afficher les médias sur les réseaux sociaux, de faire du name and shame, en fait, de dénoncer publiquement les médias qui ne parlent pas assez de climat. Est-ce que ça fonctionne ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est pas un mode d'action qui était, qui était un peu culotté en fait au départ, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça vis-à-vis de l'écologie et des médias. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on décrypte tous les jours sur nos réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn et Instagram, des contenus médiatiques, et on dit, bah là, par exemple, vous avez omis telle variable d'analyse, ou vous avez carrément désinformé sur les questions d'écologie. Au départ, les journalistes étaient très braqués vis-à-vis de ce mode d'action.
Bah ouais. On peut les comprendre.
Ils aiment pas qu'on les critique, les journalistes.
Est-ce qu'on peut totalement comprendre ? En fait, déjà, quiconque déteste qu'on les critique, mais les journalistes, c'est une profession qui est particulière, en plus, qui est protégée en termes de liberté d'expression. Quasiment en France, on a le droit de dire quasiment tout. On n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit de nier l'existence de la Shoah. Mais sinon, grosso modo, c'est assez libre. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est ce serait quand même intéressant de les confronter au fait que la liberté d'expression, à certains moments, empiète sur d'autres droits et libertés fondamentaux, comme par exemple le droit à l'environnement ou le droit à l'information environnementale.
C'est-à-dire que vous voulez limiter la liberté d'expression au nom de la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique.
En fait, j'ai l'impression qu'on confond liberté d'expression et droit d'informer. Je veux dire, un journaliste qui parle, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est juste de l'information.
Alors, en fait, liberté d'informer, mais quelle est la limite à partir du moment où on désinforme ? Et la qualité de l'information en France, elle est encadrée par l'autorité de régulation audiovisuelle.
Par l'ARCOM.
Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est important de dire que peut-être il faudrait incorporer des nouvelles variables d'encadrement, comme on le fait par exemple pour la protection de l'enfance ou la représentation des femmes dans les médias, où il y a des critères où on dit, mais en fait, à ce moment-là, on a dépassé les bornes et ça relève quasiment de la mauvaise information. Bref, tout ça, donc j'ai pas répondu à la question, est-ce que ça a un impact au niveau
est-ce
de la
que ça marche ?
Eh bien oui, au départ, on avait juste des commentaires extrêmement virulents de journalistes qui disaient d'arrêter. Et en fait, de plus en plus...
D'accord, donc ça marchait pas ouf. Pas
mais
top.
Non, mais ça attire l'attention, c'est quand même un premier levier. Et en fait, au fur et à mesure des mois, on est de plus en plus intégré dans les rédactions pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce que certains angles pourraient être infléchis. Et on a des relations qui sont de plus en plus cordiales en fait, avec énormément de médias. Donc je pense que le topo, c'est que oui, ça fonctionne carrément, puisque jusqu'à présent, il n'y avait personne qui se battait en fait, pour que les enjeux écologiques soient mieux représentés.
Et comment est-ce que vous imaginez réussir à poursuivre ce combat sur des médias qui sont sur Internet ? Nous, par exemple, on n'a rien à voir avec l'ARCOM.
Pourvu que c'est dur.
Oui, non, mais complètement, pour vous, c'est dur. Et on n'aura rien à voir avec l'ARCOM. D'ailleurs, il n'y a pas de contrat avec l'ARCOM, il n'y a pas de rien à voir.
Parce que moi, le climat... Non, non, c'est pas pour ça. Parce qu'en plus, dans les 1 à 2%, ça comprend les éditos de Pascal Pro.
Oh, wow.
Où oui, il dit qu'il n'y a pas de réchauffement parce que là, il fait froid.
Ouais. Alors, tout à fait, parce qu'on incorpore dans nos comptabilisations les contenus qui relèvent du climato-scepticisme, parce que ça parle de climat, ouais, ça parle mal.
Mais ça, on parle.
Et là, non, on ne traite pas pour l'instant des plateformes numériques parce que en termes d'encadrement, c'est pas du tout du même ressort. Donc on n'en parle pas. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font très bien. Par exemple, il y a Paye ton influence qui travaille beaucoup sur le rôle des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc on s'est dit que d'un point de vue rationalité, on allait peut-être lui déléguer ce combat et nous prendre celui des médias qui est déjà assez important.
Mais pour être optimiste, peut-être sur les plateformes numériques, c'est un peu mieux, non? Enfin, vous n'avez pas du tout chié, parce qu'il y a quand même pas mal de médias, écolo, etc., qui se sont créés ces dernières années, comme Vert, Vaquita, Reporter, qui existent en ligne. Mais oui, ça rentre...
Ils sont carrément à 100% de leur quota. Hein.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, la télé reste prescriptrice encore.
Bah, exactement. Oui. En fait, il y a deux choses. C'est qu'il y a une partie de la population qui est informée sur les questions d'écologie, mais qui est quasiment surinformée et du coup assez anxieuse parce qu'elle constate qu'il y a un décalage assez... fossé qui se crée entre eux et puis l'autre partie de la population qui consulte des médias en fait qui ne parlent pas de ces sujets. Et quand je dis 1%, c'est en moyenne, donc il y a des médias pour lesquels c'est vraiment quasiment invisible dans l'espace médiatique. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a quasiment une polarisation qui se passe dans l'espace public, comme ce qui s'est passé aux États-Unis où les enjeux d'écologie sont devenus identitaires pour une partie de l'électorat, notamment républicain. Et nous, on est très inquiets qu'il se passe la même chose en France. Et le fait qu'il y ait des médias spécialisés, c'est indispensable parce que ça inspire d'autres médias pour mieux parler de ces sujets, diversifier les angles, etc. Le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre que la majorité de la population consulte ces médias pour que l'information vienne à eux. Et exactement ce que tu disais sur la question de la prescription d'information, l'audiovisuel, pour ça, est très fort. Et donc, c'est pour ça qu'on a quand même une partie de notre action qui est en particulier axée là-dessus. Quand on a un JT de TF1 qui diffuse un sujet qui relève de la désinformation, par exemple, on a beaucoup parlé de technosolutionnisme dans le cadre de la COP28, de solutions, par exemple, de capture et de stockage de carbone qui sont en réalité pas vraiment prescrites par les experts comme une solution hyper efficace. Quand on a un sujet technosolutionniste qui passe sur un JT de TF1, c'est 5 millions d'individus qui se voient dire qu'en fait, c'est une bonne solution pour le climat. Et donc, ils se rassurent dans leur action.
Sacha ?
Au début, vous êtes parti du postulat que les médias ne parlaient pas assez des propositions politiques. Je vais retourner le problème. Est-ce que ce n'est pas plutôt les propositions des personnalités politiques qui ne sont pas à la hauteur qui fait que les médias... C'est un peu le serpent qui se mord la queue à chaque fois. Et je te dis ça d'autant plus que tu es assistante parlementaire d'une députée Renaissance et qu'on vous attend aussi un peu sur le côté écolo en ce moment. Donc voilà, c'est ma question.
Si, totalement. L'ensemble des acteurs dans la société ont des interactions entre eux. En fait, nous, le cadre conceptuel qu'on s'est donné, c'est celui du triangle de l'inaction, où en fait, on a les entreprises, les citoyens et les politiques qui se refilent la balle de la responsabilité et qui conduit à l'inaction. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un des moteurs pour mettre en branle et faire de ce triangle de l'inaction un triangle de l'action, c'était les médias. Et donc, bien sûr que le discours politique impacte le discours médiatique.
Oui, mais les médias, ils sont tenus par qui ?
Mais ça, c'est un autre sujet.
Ah bah non, c'est un peu le même.
Non, mais tout à fait. Le modèle économique des médias joue beaucoup sur également la ligne éditoriale. Nous, c'est un angle qu'on adopte dans nos réflexions aussi.
Je crois que c'est France Télévisions qui a adopté une charte assez ambitieuse en matière de contenu éditoriaux. Je sais plus comment s'appelle le document, mais c'était assez... Radio France aussi l'a fait. J'ai une question pour toi. Il paraît que vous avez lancé une proposition de loi. Un truc transpartisan plus. C'est ça qui a un peu soulevé ma curiosité. Tu peux nous en parler de ce projet ?
Oui, tout à fait. En fait, on a constaté, comme je disais tout à l'heure, qu'il y avait un groupe de médias pour qui c'était compliqué de parler de ces sujets et qui, naturellement, n'allaient pas avancer beaucoup. On s'est dit que passer par le prisme de la loi, ce serait intéressant pour contraindre au moins la lutte contre la désinformation et peut-être aussi faire évoluer les discours pour plus de qualité, donc arrêter de confondre faits et opinions, etc. Ouais. Donc on a commencé à rédiger une proposition de loi avec l'Institut Rousseau il y a un an. Ensuite, une fois qu'on a été carré, on l'a poussé auprès des députés, donc de tous les bords politiques, parce que pour nous, c'était super important que ce soit un sujet qui rallie plutôt que qui divise une fois encore, parce que l'écologie, ça a souvent tendance à diviser.
Y compris l'extrême droite ?
L'extrême droite n'a pas été sollicitée, donc tous les groupes politiques sont rassemblés, sauf eux, on ne les a pas contactés.
Non, parce que tu sais que ça fait débat hein, sur il faut aller parler
tout à fait.
D'écologie.
Hugo Clément, tu veux parler du Hugo Clément.
C'était le cas Hugo Clément qui me venait en tête, mais ouais. Donc, en clair, c'est pas votre cas.
Non, non, les a fait contacter aussi parce que ça nous semblait important de ne bah, de pas les associer sur ce sujet de l'information qui est touchy pour un parti d'extrême droite. Mais aussi parce que c'était important pour nous d'avoir les autres groupes politiques et que certains n'auraient pas voulu faire partie du groupe de travail transpartisan. Et cette proposition de loi, donc, elle a été inaugurée à l'Hôtel de la Seine, donc, là où réside la présidente de l'Assemblée nationale en juillet. Donc, on a une grande conférence où tous les députés ont fait le vœu de travailler assidûment pendant plusieurs mois sur le sujet. Et c'était important pour nous qu'ils le disent devant un public de journalistes parce que ça crée aussi cette pression qui monte vis-à-vis du fait que, bien sûr, encore une fois, ça va dans les deux sens, mais que les politiques se préoccupent de plus en plus aussi des questions qu'on leur pose en retour pour qu'il y ait de la redevabilité de leur côté. Et là, le groupe de travail va travailler jusqu'en mars et normalement aboutir à un texte qui sera examiné ensuite en hémicycle dans une niche transpartisane de l'Assemblée.
Il n'y a pas de niche transpartisane.
Si, c'est les niches de l'Assemblée nationale. C'est une innovation qui s'est passée depuis un an. Maintenant, on peut déposer des...
Ah, c'est ce truc-là. Ah, d'accord. Ouais. Oula. Oui, d'accord, ok. Non, 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 mais très bien. Et donc, le but, c'est que cette loi soit adoptée à ce moment, soit discutée à ce moment-là.
Oui, c'est ça.
Pour l'instant, dans le groupe de travail transpartisan, vous avez quoi? Vous avez qui comme couleur politique?
On a toutes les couleurs politiques, sauf le Rassemblement national.
Okay.
Le pilote est un député PS qui s'appelle Stéphane Delautrette. Ouais. Et donc, il mène toutes les auditions avec des pilotes par groupe politique. Donc, on a voilà, tous les groupes politiques représentés. Je pense que les groupes politiques les plus assidus sont peut-être plus situés à gauche du spectre politique. mais vraiment, on a jusqu'au LR qui sont présents aux auditions. Et donc voilà. Donc en fait, les mesures que nous on a proposées, elles relèvent de plusieurs ordres. On a bien sûr le quota initial qu'on a conservé, mais aussi il y a le fait de doter l'ARCOM, comme je disais, de compétences supplémentaires pour que quand, par exemple, nous on constate qu'il y a du climato-scepticisme sur certains médias et qu'on saisit l'ARCOM, ils puissent donner un retour positif. Parce qu'en fait, souvent, ils sont complètement démunis et donc ils sont juste obligés de donner des suites négatives aux saisines.
Mais c'est pas un peu une porte ouverte à toutes les... Enfin, ça, pardon, mais si on le fait sur le climato-sceptisme, par exemple, est-ce que c'est pas une porte ouverte à... Est-ce qu'on pourra pas signaler l'ARCOM dès qu'il va y avoir un truc... Ouais, c'est ça, enfin...
Mais en fait,
vous n'avez pas peur d'ouvrir une porte et que tout le monde s'y engouffre en fait ?
C'est un argument qu'on nous soutient souvent.
Là, c'est la journaliste qui parle, qui dit moi, j'ai pas envie d'avoir un flic derrière moi qui me dit il faut que tu fasses 20% sur.
J'écris pas sur le climat, moi, c'est ok.
Oui, mais elle va peut-être t'obliger.
Tu vas dans le sport, je suis sûre qu'il y a du sujet à faire.
Ah, bah, tu
non, vraiment.
Ah, bah, tout à fait. Mais c'est un des sujets aussi qu'on aime. Enfin, quand on parle de quotas, c'est pas parler tout le temps de climat, de biodiversité. C'est faire en sorte que ce soit transversal dans toutes les rubriques et que ça infuse, typiquement, quand on parle de sport, quand on parle de JO, quel va être l'impact des JO sur le climat et du climat sur les JO? Parce que si on est en pleine canicule en août, peut-être que ce serait important d'informer les Français que ça va être problématique d'un point de vue du tenue des épreuves. Voilà, donc c'est ce type de choses qu'on aimerait bien faire imprégner. Et on n'a pas... Enfin, je pense qu'il faut discerner le fait d'obliger les médias à parler de certains sujets et le fait de lutter contre la désinformation. Et nous, c'est plutôt sur ce niveau-là qu'on se situe. Et souvent, on a tendance à considérer que de dire que le réchauffement climatique n'existe pas, c'est OK, parce qu'en fait, c'est une liberté de penser. En fait, non, il y a quand même un consensus international de 99,9% des scientifiques qui disent que non. Là, ça a été récemment cité dans l'accord qui est issu de la COP28. Ça relève d'un fait. Et si on considère qu'on peut remettre tout le temps en débat tout, que tout est mou, que... Eh bien, en fait, c'est un problème démocratique quasiment. Donc, c'est aussi pour nous important de dire ça, c'est un fait. Rehaussons le débat d'un cran et ensuite ayons un débat véritablement sur les choix de société qui vont l'allocation des ressources, des solutions.
J'ai vraiment vu pareil, c'est-à-dire sur tous les sujets, on entend n'importe quoi dans les médias. Quoi. Mm-hmm. Donc, en effet, qu'est-ce qu'on fait? Faut repenser à ce moment-là la structure des médias. Ça va être difficile de demander à une émission ayez des trucs écolos et puis entre les deux, on laisse des pubs pour des bagnoles polluantes et tout. C'est-à-dire, il faut repenser. Là, il y a un sociologue qui est mort il y a deux jours, je crois, Patrick Champagne, qui avait travaillé avec Pierre Bourdieu, entre autres, et qui avait travaillé à la création de Acrimed, Action Critique Média. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai réécouté en fait Pierre Bourdieu sur la télévision, et il disait un des trucs c'est le duodimat, en fait, qui va dicter qu'est-ce qui va être repris ou pas repris dans les médias, qu'est-ce qui va intéresser ou ne pas intéresser. Donc, ces sujets-là vont être priorisés. C'est-à-dire, il faut repenser toute la structure du truc. On ne peut pas juste mettre un gendarme derrière qui va. Parce qu'il y a des chaînes qui vont dire ça, c'est bien, vous me faites faire 20%, mais moi, je ne fais pas d'audience sur ces 20%. Or, c'est mon outil de travail, ma chaîne, elle me génère du pognon. Vous êtes des libéraux, laissez-moi faire mon pognon avec ma chaîne. Non, mais c'est tout le champ qu'il faut repenser. c'est tout le champ des médias, en fait. Parce que là, ils pourraient tout à fait arguer de leur liberté commerciale pour dire « Moi, je perds du pognon avec ce truc-là, donc vous allez me compenser. Mais alors, si l'État compense ou je ne sais qui compense, bah, du coup, l'État a son mot à dire, mais je ne sais pas quoi. » Enfin, ça me paraît ouvrir une brèche étonnante.
Même sur la question de la liberté d'expression, le climato-sceptisme n'est pas répréhensible et puni par la loi. Enfin, on passe pour un gros con comme Pascal Praud quand on dit « Oh, il fait froid, il n'y a pas de réchauffement climatique. »
Mais
c'est pas contraire à la loi. Quoi.
Et déjà, même quand il y a des propos contraires à la loi, c'est compliqué. Tu vois. Enfin, même,
c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, des gens, ils disent des choses complètement racistes à la télévision.
Oui.
Et on n'arrive pas à lutter contre ça. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui...
Oui, que l'ARCOM peut mettre des amendes à Bolloré. Bolloré dit très bien, je paye. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait?
Bolloré
peut dire, moi, je ne veux pas de trucs climat, ça m'emmerde, ça ne fait pas de vue. Moi, je veux Hanouna, les trucs, voilà, les trucs racistes, du Zemmour, du machin. Et je payerai, tant pis. L'ARCOM, pour l'instant, ou alors, il faut renforcer l'ARCOM, plus gros ARCOM.
Eva, pour le mot de la fin, vas-y.
Oui, pardon.
Non, mais je partage le fait qu'il y a une crise de l'information et que ça dépasse le champ du climat. Je partage le fait que sur beaucoup de sujets, on entend tout et son contraire. Par contre, il n'y a pas beaucoup de sujets comme le climat où on a un support factuel qui nous permette de discerner le vrai du faux. Et je pense que ce serait important qu'à minima... Non, on peut avoir des débats de société où on dit n'importe quoi sur des individus, sur des opinions,
Il y a des faits.
Ouais, mais
il y a tous les autres sujets. On peut dire, il y a des faits. Regardez, on parlait de l'immigration. On peut dire aussi, il y a des faits. Regardez, il y a des chiffres. Mais on entend tout de même n'importe quoi. Objectiver.
Sur les faits de santé, par exemple, il y a un média récemment qui a dit n'importe quoi sur la vaccination. Et là, il y a un recours qui est en phase au Conseil d'État pour essayer de retirer le régime économique de la presse à ce média parce que ça met en danger la santé des lecteurs. Et donc, en fait, nous, on considère que c'est la même chose pour le climat. À un certain moment, si on continue de nier l'existence du réchauffement climatique ou son origine humaine, ça risque de mettre en danger la capacité de la société à agir vis-à-vis de ce problème. Donc pour nous, ça c'est le premier point. Et ensuite, sur le fait que même quand quelque chose est interdit, en fait, on peut quand même le dire. Oui, mais je pense que ça a une force assez importante de dire qu'il s'est passé quelque chose d'illégal sur un plateau. Ça entame fortement la réputation des personnes qui ont tenu ces propos et du média. Et même si, une fois que quelque chose est dit...
Hanouna dirait pas ça, hein.
Sur un certain nombre de dans un certain nombre de sphères aujourd'hui politiques ou même de la société, ce média, il est un peu cornerisé. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'il y a des choses pas très correct qui s'y passe, et ça a déjà une force prescriptive énorme. Et si ça se produisait sur l'ensemble des plateaux où on désinforme sur les questions de climat, et c'est, enfin honnêtement, on est encore très très loin sur les enjeux d'écologie, ce serait un progrès fort. Et dernière chose, il y a aussi avec l'ARCOM la possibilité, quand il y a vraiment de la désinformation avérée, d'émettre des sanctions. Je sais que c'est rare.
Ouais, c'est très rare.
Mais c'est aussi une possibilité pour laquelle on se bat.
Merci beaucoup Eva Morel d'être venue sur le plateau de Backseat. Merci à toi pour nous parler de cette initiative Quota Climat dont on suivra les évolutions.